Emmanuel Bove, Voyage autour d'un appartement. Pierre Wilbert ne travaillait qu'avec beaucoup de difficultés. D'un pas indécis, il parcourait son appartement, s'arrêtant parfois pour allumer une cigarette, pour regarder l'avenue de l'Observatoire, déserte et boueuse, pour s'étirer aussi longuement que s'il se fût agi de faire comprendre par geste qu'il s'éveillait. Ainsi, surtout, il employait son temps. Ah ! Mais aussitôt après leur mariage, célébré il y avait quelques mois à peine, Pierre Wilbert et sa jeune femme, Marguerite, s'étaient installés dans cet appartement qu'ils avaient trouvé non sans beaucoup de difficultés, alors qu'ils n'étaient que fiancés. Pierre Wilbert était âgé d'une trentaine d'années. Il vivait des contes et des artistes dans de nombreux journaux et magazines. De sa jeunesse passée dans une ville paisible de province, il avait gardé une certaine naïveté et une force d'imagination qui lui permettaient de transformer en un site immense et pittoresque le plus médiocre des paysages. Alors qu'il était enfant, un tapis devenait facilement à ses yeux un astre vaste désert sur lequel il se voyait errer, à peine plus gros qu'une mouche. Aujourd'hui, il est vrai, l'âge l'empêchait d'atteindre à tant de petitesse, et pourtant il arrivait encore, lorsqu'au cours de ses rêveries il fixait son regard sur quelque objet, que celui-ci peu à peu s'anima. Une sorte de bourdonnement emplissait alors ses oreilles. Une brume légère tremblait devant ses yeux. À ces moments, il fallait que sa femme se gardât bien de le déranger, car, selon Pierre Wilbert, ses états précédaient une extase propice à la création. À tout moment, Pierre Wilbert allumait une cigarette et se rendait dans le vestibule. Aux heures d'inaction, il aimait à paraisser ainsi au milieu de ses livres, à tirer des papiers, à les trier, à changer des meubles de place. Un long fût de cuivre servait de porte-parapluie. Il faisait assez rustique aux côtés d'un cartel que sa femme avait acheté au cours d'un voyage dans le Midi. Le vestibule se trouvait au centre de l'appartement. Toutes les pièces y donnaient accès, et comme elles ne communiquaient pas entre elles, les jeunes mariés étaient à chaque instant obligés de la traverser. Aussi cette antichambre n'attendait-elle pas à devenir un lieu encombré. On y déposait des objets, tout ce qu'on avait la paresse de mettre à sa place. C'était une sorte de carrefour. Une lanterne masquait l'ampoule électrique. Les visiteurs, dans ce vestibule trop meublé, ne savaient où poser leur pardessus. Une armoire bretonne, surchargée de cartons, dissimulait tout un panneau et empiétait sur l'entrée de la chambre à coucher, dont, heureusement, la porte s'ouvrait à l'intérieur. Un tapis long et mince formait un court sentier entre la cuisine et la salle à manger. Et au lieu d'une sonnette, Marguerite avait voulu une espèce de carillon. Le cordon, lâché par le visiteur, il continuait de tinter de plus en plus doucement et finissait par mourir sur une note d'une douceur extraordinaire. Sous l'armoire étaient alignées 6 paires de chaussures dont les embouchoirs nickelés brillaient dans l'ombre ainsi que des objets précieux. D'une potiche posée sur une étagère minuscule émergeait une dizaine de branches de hou. Un des fruits rouges et ridés tombait parfois sur le sol verticalement, si bien qu'après avoir rebondi 2 ou 3 fois, il s'immobilisait à l'endroit même du premier contact. Lorsque Pierre Wilbert entrait, il posait les livres et les journaux dont il était immanquablement chargé sur un petit guéridon chinois qui, faute de place, se trouvait contre le mur en dessous des patères d'un porte-manteau. et empêchait les par-dessus de pendre entièrement. Il accrochait ensuite son chapeau, mettait sa canne dans un coin, ne la quittait, comme on le fait pour une bicyclette, qu'après s'être assuré qu'elle ne gênerait pas et qu'elle ne glisserait pas, se regardait dans une glace, pendue par une chaînette à un clou de cuivre à peine plus gros qu'une épingle, afin de ne pas abîmer le mur, puis il pénétrait dans le bureau où sa femme l'attendait. « Qu'est-ce que tu apportes de neuf ?» demandait-elle aussitôt. Il haussa les épaules. Elle se levait alors et, chaque fois, se dirigeait vers le petit guéridon. Elle demeurait un instant dans le vestibule à feuilleter les livres, à parcourir les journaux. Et quand elle revenait, elle disait, montrant un des livres, « Tiens, tu as acheté ça ?» Pierre Wilber ne répondait pas. Marguerite ouvrait de nouveau le livre, lisait une dédicace et ajoutait « Oh, il te l'a donné !» Son mari acquiesçait de la tête. Elle interrogeait « C'est bien ?»« Bon, comme ça, » répondait Pierre. « Tu vas pas lire ça, j'espère. »« Mais si c'était bien, je le lirai pour toi. » Et je te dirai ce que j'en pense. Tu as confiance en mon jugement. » Pierre Wilber se contentait de sourire tout en marchant de long en large dans le bureau. Le sol de cette pièce était recouvert d'une moquette rouge, clouée le long des murs et qui s'interrompait net à l'endroit où commençait le vestibule pour faire place à un parquet ciré. Le bureau... « Ton studio, comme disait Marguerite, avait été aménagé dans la plus belle pièce de l'appartement. Dans l'esprit de l'architecte, celle-ci eût dû être réservée au salon. Aussi la cheminée était-elle de marbre ondulé et les murs couverts de boiseries. Deux hautes fenêtres donnaient sur l'avenue même de l'observatoire, malheureusement en plein nord. À cause de ce dernier inconvénient, Pierre Wilber avait longtemps balancé entre cette pièce et une autre, toute petite, il est vrai, mais donnant sur une cour ensoleillée. Finalement, sur les instants de Marguerite, qui affirmait que l'essentiel était après tout de pouvoir se remuer librement, Pierre s'était décidé pour le salon. Le lendemain, on commença l'aménagement. « Nous laisserons le centre de ton studio libre, de façon que si tu as envie de marcher, tu puisses le faire, » dit tout de suite Marguerite. Un menuisier de la rue Saint-Jacques vint prendre des mesures aux fins d'aménager un cosy corner dans un angle de la chambre. « Préfères-tu des rayons ou une véritable bibliothèque ?» demanda Madame Wilber à son mari. Après avoir hésité, durant 24 heures, les jeunes mariés penchèrent pour la deuxième solution. « Mais puisque tu aimes les livres, c'est quand même mieux, » observa Marguerite. « Mais ce que je voudrais surtout, » dit Pierre, « c'est d'avoir pas froid en hiver. Pour que je puisse travailler, il me faut avant tout de la chaleur. » On acheta la véritable salamandre portant la marque Chalaboch, et on l'a choisi de forme assez moderne et verte de couleur. « Combien veux-tu de prise de courant ?» demanda Marguerite. « Au moins 3. On ne sera pas obligé comme cela d'avoir un grand éclairage. Il sera plus intime avec de petites lampes. » Et depuis 2 mois déjà, le bureau était complètement terminé. « Je veux que personne ne touche à ma table même. » « À toi, » dit Pierre à sa femme. « Oui, c'est une manie que j'ai. J'aime que mes papiers démarrent à l'endroit exact où je les ai laissés. Si on ne touche à rien, je sais me retrouver dans mon désordre. » Marguerite avait un profond respect pour les manies de son mari. Elle comprenait qu'il n'est pas d'effort intellectuel sans de petits travers. Elle s'appliquait d'autant plus à respecter les exigences toujours plus nombreuses de Pierre qu'elle éprouvait le besoin de donner un corps à sa profession immatérielle. lui semblait toujours que les amis ou les parents qui lui rendaient visite supposaient que son mari vivait sans travailler. Aussi voulait-elle qu'on ne pût y avoir de malentendu sur ce point. Ce fut elle qui convainquit Pierre de la nécessité d'acheter un véritable bureau. Mais durant une semaine, il s'y refusa. « Mais une grande table de bois blanc, c'est tout ce qu'il me faut. Du moins que j'ai du papier, de l'encre et de la chaleur, cela me suffit. » Mais il se rangea finalement à son point de vue et accepta même que l'on installât le téléphone, contre lequel il avait pourtant une haine profonde, parce que, disait-il, « avec un tel appareil, on n'est plus chez soi. À chaque instant, on vous dérange. » Des presse-papiers, des encriers, des coupe-papiers, un mouille-timbre allemand, sorte de tube terminé à une extrémité par une éponge et qui s'emplit l'eau ainsi qu'un stylo d'encre, les dictionnaires, des pots de colle parfumés à l'amande, encombrèrent son bureau, pièce unique achetée chez un antiquaire de Versailles, mesurant 2 mètres de long et flanqué sur les côtés d'une foule de tiroirs. Ces tiroirs, Pierre Vibert ne savait comment les remplir. Il possédait quelques manuscrits, quelques lettres, quelques brouillons, mais le tout est largement tenu dans l'un d'eux. Marguerite, pour faciliter la tâche de son mari, s'était réservée mieux se placer à la droite du bureau. Dans le premier, elle mit son livre de comptes, dans le deuxième, des catalogues, et dans le troisième, une rame de papier blanc. « Quand tu as besoin de papier, demande-le-moi, » dit-elle à son mari. Elle l'engageait à avoir de l'ordre. « Mets tes lettres d'éditeur, tes contrats dans un tiroir. » Comme cela, si tu as besoin de consulter quelque chose, tu ne perds pas de temps. Mets tes manuscrits dans des chemises de couleurs différentes et place le tout dans le tiroir du dessus. On peut se faire une commande à laquelle tu ne t'attends pas. Et comme cela, tu te retrouves. Quand Pierre Wilbert avait marché durant quelques minutes de long en large, il s'asseyait derrière son bureau. Son regard se portait alors sur les feuilles couvertes de ses écritures épars devant lui. Et c'était à ces instants qu'il sentait une vague détresse l'envahir. Il la cachait soigneusement à la femme, en simulant une grande fatigue. Machinalement, il prenait une de ses feuillets et relisait une phrase qu'il avait écrite. C'était, par exemple, il ouvrit la porte et vit devant lui, dans l'obscurité, une sorte de voile blanc ayant une forme humaine se mouvoir. Il jetait alors cette feuille avec mépris en pensant « Pour que c'est bête, mais j'aurais pu écrire aussi bien. Il ouvrit la porte et se vit rien au premier abord. Ou alors il poussa la porte et tout de suite aperçut sa sœur allongée sur un sofa. » Ou encore, il ouvrit la porte, la pièce était vide, il fit quelques pas, s'assit, alluma une cigarette, ferma les yeux et attendit. Et au bout d'un instant, dans l'obscurité à laquelle il s'était habitué, une forme blanche s'approcha de lui. C'était sa sœur. Marguerite devinait les tourments qu'endurait son mari. Elle tâchait de l'aider. « Tu ne devrais pas te servir de cet adjectif, » lui conseillait-elle. « Tu l'emploies trop souvent. Dans une seule page, j'en ai compté 7. » Ou bien elle lui disait, « Mène-toi, méfie-toi. À la fin de ton conte, tu ne devrais pas faire mourir l'héroïne comme celle-là. À la façon dont tu l'as présentée avant, elle est incapable de s'empoisonner. » À mon avis, elle devrait plutôt s'enfuir. Puis, après avoir couru pendant 1 heure dans les rues, elle devrait rentrer et demander pardon à son mari. » Pierre Wilbert souriait avec hauteur, puis la nuit modifiait son dénouement. Le lendemain, il appelait sa femme et lui lisait le conte. « Oh, tu as bien fait de m'écouter, » lui disait-elle. « Non, » répondait-il, « je ne t'ai pas écouté, j'ai réfléchi. Il m'a semblé que cette fin était meilleure. J'ai sacrifié la moitié de l'histoire et j'ai refait le dénouement. Tant pis, si ce n'est pas cela. Maintenant, je n'y touche plus, c'est fini. C'est une chose qui n'existe plus pour moi. » Tout l'art est de sentir le moment où l'on doit s'arrêter de polir. Pierre Wilbert ne restait pas longtemps assis derrière ce bureau, tourné vers la porte de manière à ce que si quelqu'un entrait, il l'aperçût tout de suite. C'est surtout Marguerite qui avait voulu que le bureau fût ainsi placé. Dans son esprit, tout visiteur demandant à parler à M. Pierre Wilbert était un adversaire. Il s'agissait de lui imposer, il s'agissait de lui montrer que son mari travaillait réellement. Il fallait que la lumière de l'extérieur se répandît sur le visage de l'intrus, cependant que son cher Pierre demeurait caché dans l'obscurité. Presque aussitôt, Pierre quittait le fauteuil de cuir et se remettait à arpenter le bureau. Quelquefois, il s'arrêtait brusquement, et, se tournant vers sa femme, il disait « Et si je faisais une pièce ?» Elle le regardait avec amour. « Puisque c'est ton idée, tu devrais essayer. » Il demandait alors « Est-ce que tu crois que je réussirais ?»« Mais pourquoi pas? Tu es aussi doué que tous les autres. » Oh, avant, tu me disais que j'étais plus doué que les autres. Oui, mais le théâtre, ce n'est pas la même chose. Il faut avoir le sens du dialogue. As-tu le sens du dialogue? Mais qu'est-ce que tu crois? Bon, en tout cas, dans tes contes, tu réussis bien les dialogues. Maintenant, reste à savoir si le dialogue de conte est le même que celui de la scène. Pierre se remettait alors à marcher. Il pensait aux acclamations d'un public remué. Des fleurs tombaient des loges les plus élevées sur la rampe. Marguerite était assise seule dans une immense avant-scène. Sa robe de soirée étincelait aux lumières et ses cheveux blonds étaient entourés d'une gaze. On le tirait par un bras. Il refusait d'avancer. Plusieurs hommes s'unissaient pour le pousser. Et tout à coup, une mer de visages mouvait à ses pieds. Il était sur la scène. On présentait l'auteur au public. Des applaudissements, des cris jaillissaient de toutes parts. « Pierre, est-ce que tu travailles aujourd'hui après le dîner ?» C'était toujours une phrase semblable à celle-ci qui le tirait de ses rêves. Je tournais alors vers Marguerite. Allongée sur le divan, elle regardait aller et venir fiévreusement. Une expression d'admiration agrandissait ses yeux, donnait plus de pureté encore à l'ovale du visage. « Oui, je te demande cela parce que si tu travailles, il vaudrait mieux dîner tout de suite. Il vaut mieux que le travail, n'est-ce pas? Oh, es-tu disposée ?» Pierre se remettait alors à arpenter le bureau. Il n'aimait pas répondre à ce genre de questions. Finalement, il interrogeait « Personne ne me dérangera !» Marguerite veillait à la tranquillité de son mari. Elle défendait l'accès de son bureau et, inoccupée, attendait des heures dans une pièce voisine. Et vers 4 heures de l'après-midi, pourtant, ou vers 11 heures du soir, elle frappait doucement à la porte du bureau avec le désir secret que l'attention et le soin que son mari apportait à son travail l'empêchassent de l'entendre. Et au bout de quelques instants, s'il n'avait pas répondu, elle frappait de nouveau aussi doucement. Finalement, elle entrait sur la pointe du pied. Son mari ne levait pas la tête. Elle l'appelait d'une voix à peine perceptible. Et même quand il l'avait entendue, il ne répondait pas la première fois. Elle l'appelait encore. Il la cherchait alors dans l'obscurité de la pièce, car même le jour, il travaillait à la lumière d'une ampoule longue et parallèle à son papier inondé de clarté. « Pierre, disait-elle, tu devrais t'arrêter un instant. » La salle à manger des époux Wilbert, ainsi que la chambre dont Pierre n'avait pas voulu comme bureau, donnait sur la cour ensoleillée. Des rideaux à damiers rouges et blancs pendaient à la fenêtre. Un tapis de cordes couvrait le sol. Le petit lustre, mi-cristal, mi-fer forgé, donnait deux éclairages selon que l'on tournait le commutateur une ou deux fois. Marguerite aimait les cuivres. Il y en avait sur tous les meubles. Elle aimait également les feuilles mortes. Toutes les postiches étaient remplies de branchages desséchés, si bien qu'en pénétrant dans la pièce déjà tapissée de roues, on était frappé par un jour de sous-bois en automne. Contre un mur se dressait un buffet rustique. Madame Wilbert n'avait point voulu de ces salles à manger pompiers, ni de ces buffets faits en série et commandant tous les ménages des petits bourgeois. De son fameux voyage dans le Midi, elle avait gardé un certain goût de l'ameublement provençal, goût qui s'était transformé en passion lorsque la vogue de ce style parvint à ses oreilles. « Le rustique est charmant, disait-elle. C'est frais, original, cela a un cachet particulier. » Les chaises, elles aussi, étaient rustiques, à un tel point d'ailleurs qu'elles étaient fort peu confortables. Basse, le dossier très haut, la paille du siège blanche et dure comme du bois, elles étaient plus décoratives que pratiques. Au moindre faux mouvement, les poids du dossier sur les entraînaient en arrière. Quant à la table, elle était trop haute, si bien qu'au cours des repas, les convives assis d'autre part très bas semblaient des enfants. Des pinces de métal maintenaient au mur des imitations de vieilles faïences craquelées, aux motifs parfaitement effacés, parfois même fendus. Et pour que la vraisemblance fût plus grande encore, la douzaine était incomplète. « Votre salle à manger est charmante, disait Madame Laffitte quand elle venait voir sa jeune amie. C'est un bijou, c'est un amour, c'est arrangé avec un goût exquis. Oh, si mon mari n'avait pas une telle adoration pour ses meubles, nous commanderions exactement le même. Vos faïences sont délicieuses, et ces feuilles mortes dans ces pauvres tiges de cuivre. C'est absolument ravissant. Oh, j'en ai parlé à toutes mes amies. Tout Paris connaît votre salle à manger. Et ma vieille sœur, qui ne sort jamais, ne laisse pas un jour s'écouler sans me demander de la conduire dans votre chez-vous. » Pierre attendait que la table fût mise avant de pénétrer dans la salle à manger. Sa femme l'y précédait de quelques minutes afin de réparer les oublis de la bonne. Finalement, entr'ouvrant la porte du bureau, elle disait « Chérie, tu peux venir, c'est prêt. » Il posait, comme à regret, son porte-plume, passait au cabinet de toilette pour se recoiffer, car en travaillant, il avait l'habitude de fourrager sa chevelure, puis pénétrait dans la salle à manger. « Ce n'est pas trop tôt ?» demandait-il tout de suite. Et finalement, il s'asseyait en face de sa femme. « Oh, j'espère que tu vas bientôt toucher un peu d'argent. Tu ne te rends pas compte ce que ça coûte l'entretien d'un ménage ?» remarquait Marguerite. « Oh, cela ne me paraît pas extraordinaire. Tu achètes quand même que des choses très simples. Oui, mais répéter tous les jours, cela finit par devenir important. » Le dîner achevé, les époux Wilbert passaient dans le salon tapissé d'un papier à fleurs, imitant à s'y méprendre la toile de Jouy. Cette pièce n'était pas encore complètement meublée. « Nous avons le temps de recevoir, » disait Marguerite. « Commençons par ce qui est indispensable. D'ailleurs, pour qu'un salon soit bien, il faut le meubler petit à petit. Et si nous rencontrons sur notre chemin un petit vase, un fauteuil, un bibelot quelconque qui nous plaît, nous l'achetons. Il ne faut pas se presser. Les occasions ne se présentent pas quand on les cherche. Au moment où tu y attends le moins, tu peux justement dénicher le pendant d'une gravure qui nous manque. Crois-tu que c'en est en un jour que ton père a massé les merveilles qui embellissent son intérieur ? » Six fauteuils dessinaient un cercle. Au centre se trouvait une table basse sur laquelle étaient disposés négligemment les journaux dans lesquels un conte de Pierre avait paru. Mais personne ne les ouvrait, car après avoir consulté la date, les visiteurs les reposaient avec une sorte de désappointement. Dans un cadre posé sur la petite cheminée noiraude du salon, il y avait une photographie du conteur. Le visage noyé dans un halo, il semblait rajeuni de 10 ans. Un dessin d'un grand caricaturiste que Pierre avait trouvé sur la table d'une salle de rédaction décorait un panneau. Le lustre, lui, n'était que cristal. Des chandeliers anciens, à l'intérieur desquels passait un fil électrique, éclairaient eux aussi le salon. Le samedi soir, les époux Wilbert recevaient des parents ou des amis très proches. Marguerite était alors méconnaissable. Dès le matin, elle se préparait à cette réception, cependant que Pierre bougonnait sans cesse, affirmant de temps à autre que ce n'était pas ainsi qu'il pouvait travailler. Mais sa femme ne se souciait plus de ses plaintes, tellement elle était joyeuse. « Tu n'as qu'à beaucoup travailler cet après-midi. Si tu n'as pas fini, tu te rattraperas demain matin. »« Allons-nous coucher, il est tard. » Et quand Marguerite prononçait ces mots, Pierre ne répondait pas et continuait de méditer, la plume à la main. « Allons, viens, il est tard. Tu travailleras mieux demain. » Il hésitait encore un peu à quitter son bureau. « Demain matin, tu auras les idées plus nettes. Allons, viens !» Cette fois, il se levait, puis, pour s'excuser, « Oh, mais tu veux donc pas que je travaille ?»« Mais tu as déjà beaucoup travaillé. Fini le travail pour aujourd'hui. Maintenant, il faut te reposer. Tu l'as bien mérité. » Quoiqu'il n'eût écrit que quelques lignes, Pierre obéissait. « Ce soir, ça ne va pas, » pensait-il. « Mais Marguerite a raison. Il vaut mieux que je me couche. J'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas quoi écrire. C'est épuisant de vouloir écrire quand même. Il me semble que je serais fatigué que si j'avais écrit 100 pages. Oh, je ne peux tout de même pas répéter continuellement ce que j'ai déjà dit. » Et si j'abandonnais? Et si je n'écrivais jamais plus une ligne? Quel soulagement! Il me semble que si cela m'était permis, je sauterais au ciel de bonheur. Fini le bureau, fini les heures en face de moi-même, en face du vide. Fini le vertige, le dégoût de moi-même, la prison entre ces 4 murs, pendant que dehors, les gens travaillent vraiment. « Moi aussi, je me promènerais au soleil, je ressemblerais à tout le monde, et quand je reviendrai de mes occupations, je n'aurai plus rien à faire, tout me distrairait, et je serai 100 fois plus heureux que je ne le suis aujourd'hui. » Il entrait dans la chambre à coucher, le visage morose. Marguerite n'avait point voulu d'un lit de cuivre ou de bois, d'une armoire à glace de cuivre ou de bois, d'une armoire à glace et d'une table de nuit. Un divan tendu de velours noir, posée sur un tapis beige, lui avait plu davantage. Les murs étaient tapissés d'un papier violet, agrémenté de longues équerres d'or, jetées pêle-mêle. Tout cela semblait un peu allemand. Une peau de mouton servait de descente de lit. Une lumière glacée tombait d'un plafonnier de verre dépoli. À la tête du divan, deux cubes noirs portaient chacun une boule dans laquelle il neigeait quand on la remuait. Un rideau rouge masquait une glace encadrée d'argent. Et quand on le tirait, il semblait à première vue que cette glace était la réalité et qu'on ne pouvait la traverser pour se rendre dans les pièces voisines et lointaines. Le soir, dans cette chambre étrange, Marguerite devenait autre. Elle oubliait ses préoccupations de femme, d'intérieur, les conseils qu'elle donnait à son mari, l'ambition qu'elle avait d'embellir son salon, sa fierté d'être l'épouse de Pierre Wilbert. Sous la lumière mystérieuse du plafonnier, il lui apparaissait soudain qu'elle était dispensatrice de peine ou de joie, simplement parce que le décor répondait aux rêves de son imagination. Elle se donnait tout à coup une importance sans limite. C'était d'elle à présent que dépendait l'avenir et le bonheur de son mari. Les yeux encore fatigués par le papier blanc, il s'avançait. Vêtue de peignoir, elle le regardait s'approcher. Durant quelques instants, elle avait l'impression qu'elle était de tous les temps et que cet homme, venu de l'agitation vaine des villes, recherchait sa présence, ainsi qu'un assoiffé, une source. Puis, chassant ses divagations, elle le prenait par la main, le faisait asseoir et disait « Ne penses-tu pas que j'ai un bon goût? Tout le monde trouve notre chambre intime. Madame Lafitte m'a dit que c'était un véritable nid. Es-tu heureux au moins? Tu as toujours l'air soucieux. » « Mais non, Marguerite, mais non, je t'assure que je suis heureux. On ne peut rien désirer de plus. »« Alors pourquoi as-tu toujours cette mine renfrognée? Tu as un appartement adorable. Tu as la paix, cette paix que tu désirais tant. Tu as ton travail, ton meilleur compagnon, comme tu dis. Et tu as moi. Tu es le plus aimé des hommes. Écris de belles histoires et nous serons heureux. » Marguerite s'asseyait alors au pied de son mari. Le bureau enfumé qu'il venait de quitter se perdait déjà dans le lointain. « Après tout, Marguerite a raison, pensait-il. Je suis très heureux. Demain, nous verrons. Oh, ce soir, je suis trop fatigué. Quand on a réfléchi toute une journée, il est naturel que l'on se délasse. » Pour le moment, ne pensons à rien, à rien. » Il baissait alors les yeux et apercevait sa femme à genoux près de lui. Petit à petit, plus rien n'existait pour lui. Une sorte de torpeur l'envahissait. Les deux jeunes mariés restaient longtemps ainsi, dans le silence qu'aucun bruit de l'avenue déserte ne venait troubler. Puis, brusquement, Marguerite se levait. « Pierre, il est bientôt minuit. Il faut dormir. » Il ne bougeait pas, plongé qu'il était dans ses pensées. « Allons, Pierre, lève-toi. Ce n'est pas raisonnable de veiller ainsi quand tu ne travailles pas. » Finalement, Pierre Wilbert obéissait. À peine debout, il serrait sa femme contre lui, l'embrassait. Puis, lentement, l'esprit ailleurs commençait à se dévêtir.